Donc ce soir, nous avons pas beaucoup de délibérations, mais une délibération importante qui est la présentation du ROB, du rapport d'orientation budgétaire. C'est un gros avantage pour moi parce que je n'ai pas grand-chose à dire et je vais laisser la parole à Charles Alexandre qui va se faire un plaisir de vous expliquer cette situation.
Merci, monsieur le maire. Donc, mesdames, messieurs, dans quelques instants, nous allons discuter de l'orientation des finances de notre commune pour l'exercice 2016. Tout d'abord, je tiens à remercier les services municipaux pour leur professionnalisme et leur implication dans la préparation de ce rapport d'orientation budgétaire, car, comme vous le savez, c'est un nouveau document qui nous est imposé par la loi. Donc, le personnel a, je pense, très bien préparé ce document. D'un point de vue de personnel, je trouve cette exigence légitime et bienvenue. Elle permet de poser les choses et donc de faciliter la réflexion. Cette exigence de transparence est un moteur pour la majorité municipale, mais je le crois aussi pour l'ensemble des élus. Je tiens tout de même à apporter une petite précision sur le thème transparence. Cela ne signifie pas que la gestion des finances publiques soit occulte, mais dans cette exigence de transparence, j'entends un besoin de clarté, de rendre compréhensible sa gestion, son explication, et de ne pas trop techniciser sa lecture. Toute question d'un lissois aura une réponse de ma part ou des services. Donc le document qui vous a été fourni comporte deux parties. La première cadre sur la situation internationale et nationale. Ensuite, la deuxième est orientée sur des finances communales. Cette partie se subdivise en deux. Donc une partie qui concerne la rétrospective de 2010 à 2015. Ensuite, une deuxième partie qui concerne les prévisions pour 2016, 2017, voire 2020, quand là, c'est possible. Donc dans mon propos liminaire, je vais synthétiser l'ensemble du document. Je pense que je ne vais pas lire l'ensemble des pages, ce serait un peu long. Donc il va avoir le PowerPoint derrière qui va, au fur et à mesure, défiler, qui illustrera les propos que je vais tenir. Donc tout d'abord, je vais parler de l'environnement macroéconomique très rapidement. Donc l'an dernier, lors du débat d'orientation budgétaire, un groupe avait demandé une présentation plus exhaustive du contexte général. Il me semble qu'au travers du document qui vous était fourni, vous avez de la matière, contrairement peut-être à l'année dernière. Si je peux synthétiser cette partie, je me permettrai de dire que la reprise se fait attendre, que le contexte est très incertain. Les bourses européennes, américaines et asiatiques sont dans une situation critique. Certains économistes parlent de possibles nouvelles crises économiques. Il faut aussi attendre les élections peut-être américaines en fin d'année. Peut-être que ça changera aussi énormément de choses dans le domaine macroéconomique. Malgré son empreinte écologique négative, le cours du pétrole est un baromètre de l'économie. Son marché est volatile, sa demande baisse pourtant, l'offre augmente avec un retour de l'Iran sur la scène internationale. Dans ce contexte, de nombreuses entreprises hésitent à investir et donc la relance se fait attendre. D'un point de vue européen, il faut souligner la situation de l'euro. Chacun sait depuis le traité de Maastricht et l'entrée en vigueur de la monnaie unique que notre pays ne dispose plus de monnaie comme levier économique. La monnaie est devenue un flux subi pour les États et non un atout. Aujourd'hui, seule la Banque Centrale Européenne a les mains sur cet outil. La BCE aujourd'hui est dans une position de rachat de dette, de circulation des liquidités, afin de prévenir le risque réel de déflation. De nombreuses interrogations pèsent sur cette monnaie unique. Avec la situation grecque, plus généralement, la situation de l'Union européenne est inquiétante, avec le risque de Brexit, les flux de réfugiés et la situation tendue avec certains pays européens, notamment la Pologne. Pour le contexte national, je vais aussi être assez bref. Je pense que les médias en parlent assez régulièrement dans la presse écrite ou alors à la télévision, voire sur Internet. La reprise se fait attendre. Le taux de chômage de catégorie A ne fait que progresser depuis des années. Notre pays est dans une situation qui se dégrade d'année en année. Il faut savoir que le dernier budget excédentaire de notre pays est celui de 1974. Le poids de la dette en proportion du PIB ne s'est atténué que trois fois, entre 87 et 88, entre 97 et 2001 et entre 2005 et 2006. Cependant, en valeur, l'augmentation est constante depuis 1978. Il y a un chiffre à retenir tout de même, c'est que la France s'endette de 2345 euros par seconde. Le gouvernement prévoit une croissance de 1,5% pour cette année. Des réformes sont en cours, il faut tout de même être optimiste. Espérons que cela changera la donne. Donc la situation pour les collectivités locales. Donc nous sommes aujourd'hui le 2 mars 2016. Il y a 34 ans, jour pour jour, la première loi de décentralisation était promulguée, supprimant notamment la tutelle de l'État sur les collectivités. Depuis cette date, jusque très récemment, la décentralisation était le maître mot, les actes suivaient en principe les mots. Depuis 2012, la situation est bien différente. Bien sûr, auparavant, elle n'était pas parfaite. Le terme des engagements de l'État n'est pas nouveau. Le maire de Lisse, en 1979, dans le journal municipal, employait déjà cette expression. Cependant, depuis 2012, l'État diminue les dotations aux communes. Elle ajoute des dépenses supplémentaires, notamment les rythmes scolaires, les différentes cotisations. La loi de finances de 2016 prévoit une revalorisation des bases de 1%. L'Association des maires de France alerte quotidiennement les Français et le gouvernement sur la situation. Le département du Nord, qui est une collectivité partenaire très importante, est dans une situation catastrophique. Il existe un risque réel de mise sous tutelle. Le 11 février, le président du conseil départemental, Jean-René Lecerf, a écrit à M. le maire afin de l'informer d'un possible non-financement de futures actions, car le RSA pèse de plus en plus sur le budget du département. Donc je vais maintenant parler du contexte lissois. Bien sûr que Lisse est tributaire de tout ce que je viens de dire. Mais quand on regarde la situation lissoise, on peut être perplexe. Quand on la compare, nous pouvons aussi trouver des points positifs. Loin de moi de l'idée de faire un bilan à décharge ou à charge des équipes précédentes, la situation est celle-là, nous devons faire avec. Un budget se construit pour une année, mais ses choix auront une incidence sur les années futures. Mais les choix que nous ferons aujourd'hui sont aussi balisés par les choix des années précédentes de notre passif. Donc je vais maintenant évoquer le fonctionnement au niveau budgétaire et ensuite on passera à l'investissement. Dans le fonctionnement, je vais d'abord évoquer les recettes et après les dépenses. Donc au niveau du fonctionnement, les recettes de fonctionnement sont en augmentation depuis 2010. Cependant, à partir de 2015, celles-ci commencent à se tasser, principalement du fait de la baisse de la DGF. La DGF a baissé de 14% entre 2014 et 2015. Pour 2016, les recettes devraient avoisiner 13 281 529 euros sans reprise de l'excédent. Avec la reprise de l'excédent, qui doit être avalisée par le compte administratif qui vous sera soumis au prochain conseil municipal le 30 mars, les recettes devraient être de 13 962 339 euros. Soit une baisse comme tout de même des recettes de 1,52%. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une prévision d'excédent qui est quand même assez importante. Le premier poste de recette pour notre ville est le produit des impositions, soit 9 480 116 euros. Le deuxième poste de recette est celui des dotations. Entre 2010 et 2012, la DGF fut stable. Depuis 2014, elle diminue de manière dramatique. 150,70 euros par lissois en 2012, en 2015, 120,09 euros par lissois. Pour 2016, nous prévoyons une DGF aux alentours des 97 euros. Nous disposons de nombreuses autres dotations, parfois elles sont en progression, mais elles ne compensent que très partiellement la baisse de cette DGF. Elles seront en baisse, donc les recettes, elles seront en baisse de plus de 320 000 euros. Pour la DGF, la ville de Lisse-la-Noix va perdre 18% du montant versé l'année précédente. Pour l'année 2017, les perspectives sont encore pires, parce qu'on construit ce budget, mais il faut aussi avoir le budget de 2017 en tête. La DGF serait de 72 euros par lissois, donc plus de 50% de baisse entre 2012 et aujourd'hui. Le cumul de la baisse de la DGF entamée par le gouvernement fera perdre plus d'un million d'euros de 2012 à 2017. Nous ne toucherons que très peu aux tarifs des services offerts aux lissois, restauration, les accueils de loisirs. Concernant l'imposition, un point d'augmentation d'impôt correspond à peu près 60 000 euros de recettes. Pour compenser uniquement la baisse de la DGF, sans prendre en compte les nouvelles dépenses imposées par l'État, la ville devra augmenter de plus de 16% les taxes. Cette porte est bien sûr fermée. Une augmentation comprenant uniquement la baisse de 2015 à 2016, il faudrait une augmentation de 5%. Nous écartons également cette possibilité. Sans modification des recettes, même avec un effort très important de gestion, les recettes de fonctionnement de 2017 seront inférieures aux dépenses. Un budget de collectivité doit être en équilibre, un des principes de base de la comptabilité publique. Il n'existe que très peu de marge pour parvenir à l'équilibre. Soit laisser filer la dette, soit augmenter les impôts, augmenter de façon importante les prestations, le tarif des prestations de services publics, supprimer des services ou augmenter la population de l'IS. Pour compenser la baisse de ces recettes, nous continuerons prioritairement vers la baisse des dépenses de fonctionnement. À ce jour, aucune porte n'est fermée. Avec Monsieur le maire, une réflexion est en cours pour l'avenir de notre ville. 2016 sera une année difficile, mais 2017 sera bien pire. Il faut boucler le budget, il faut jongler avec la baisse des dotations, la situation financière des ménages lissois, les investissements nécessaires à notre commune. Concernant les dépenses de fonctionnement, pour cette année, nous prévoyons des dépenses de fonctionnement à hauteur de 12 827 069 euros. En 2015, la prévision avoisinait les 12 694 376 euros. Le premier poste de dépenses est celui du personnel qui représente 59% du budget de fonctionnement. Puis viennent ensuite les dépenses à caractère général. Malgré les économies en matière de fonctionnement, ces dépenses devraient globalement être en augmentation du fait de l'augmentation des dépenses de personnel. Donc, tout d'abord, je vais évoquer le fonctionnement courant, donc ce qui est hors personnel. Hors personnel, ces dépenses progressent de manière régulière jusqu'en 2014. Le compte administratif anticipé de 2015 laisse apparaître une baisse des dépenses. Ce serait une première pour notre commune depuis la décentralisation de 1982. Nous prévoyons une baisse des dépenses de fonctionnement hors personnel de 1,5%, environ 55 000 euros. À cela, il faut ajouter les économies des années précédentes qui sont cumulatives. Des efforts inédits ont été faits depuis mars 2014 en matière de frais de réception, de gestion du parc de téléphonie, du parc de véhicules. Il y a pas mal d'exemples. Concernant les subventions, nous faisons des aménagements au cas par cas suivant les délégations. Et les commissions servent aussi à discuter du montant des subventions attribuées aux associations ou à divers organismes. Concernant le personnel, depuis toujours, ces dépenses sont en augmentation. Le poids de celles-ci sur l'ensemble des dépenses sont en progression. L'ambition de la ville n'est pas de continuer vers cette croissance exponentielle. Bien sûr, nous souhaitons freiner cette dépense. Ça, c'est facile de le dire. Maintenant, la question, c'est comment. Alors, comment? Nous proposons donc de mutualiser davantage en interne et en externe. Ce qui signifie en interne, en instaurant davantage de polyvalence pour le personnel et en ne faisant pas de remplacement systématique de départ à la retraite. Cette mutualisation peut donner lieu à un accroissement de services, à un accroissement de la qualité des services offerts aux Lissois. Par exemple, nous allons mettre en place dès cette année le guichet unique concernant la jeunesse. Depuis 2014, nous avons déjà diminué par deux le nombre de directeurs généraux adjoints. Une simplification et une modernisation des démarches est en cours. En externe, la mutualisation des actions ou des services avec d'autres collectivités. Le travail de coopération avec la ville de Lannoy, qui est en train de s'entamer, est un excellent exemple de partenariat constructif pour nos administrés. Cette année, ce sera surtout les compétences de culture et d'animation qui seront mutualisées. Je tiens aussi à préciser deux choses pour les dépenses de personnel. Cette part sur le fonctionnement augmente mécaniquement, vu que nous baissons les dépenses de fonctionnement hors personnel. Donc, la proportion augmente mécaniquement. C'est une simple lecture de chiffres. Cependant, il y a aussi une chose qui a trait spécifiquement à la ville de Lys. En effet, notre personnel a des missions que d'autres communes ne donnent pas à leur personnel. Par exemple, la ville de Lys compte une restauration municipale, un modèle du genre en France, avec des repas de qualité, des repas bio, avec des produits locaux. Il faut donc du personnel pour confectionner ces repas, pour le nettoyage, ce que n'ont pas d'autres communes qui font appel à des prestataires. Et souvent pour une qualité inférieure ou un coût du repas plus élevé. Doit-on supprimer la restauration municipale pour satisfaire des données techniques, comptables au détriment des anciens et des enfants qui consomment chaque jour le repas fait par la ville? Cette majorité s'y refusera et je pense que l'ensemble du conseil soutient cette idée. Deuxième exemple, la police municipale. Toutes les communes ne disposent pas d'une police municipale. Depuis 2015, les effectifs ont été renforcés. Nous disposons de 8 agents, dont un maître chien. Certains agents sont instructeurs de tir ou formateurs. Une équipe professionnelle au service de la sécurité des Lissois. Doit-on également réduire la voilure en termes de sécurité? La sécurité est une priorité de cette mandature, donc le débat est écarté. Un troisième exemple, les écoles maternelles lissoises comptent une ATSEM par classe. Il faut savoir que la loi nous impose à une ATSEM par école. Et pourtant, les petits lissois ont besoin de personnel formé et professionnel pour les aider dans leur développement quotidien au sein des écoles de la République de Lys. Donc nous ne souhaitons pas non plus changer ces choses-là. Enfin, je vais parler de l'investissement. Donc tout d'abord, je vais évoquer les dépenses et après les recettes. Donc nous gardons toujours les dépenses d'investissement prévues au plan pluriannuel d'investissement qui vous était présenté l'an dernier, à savoir notamment l'extension de la vidéoprotection, la mise aux normes des bâtiments municipaux en matière de sécurité ou d'accessibilité, par exemple, la finalisation de travaux, dont la crèche, le début des études et des travaux pour la restauration municipale, la construction de vestiaires beaucoup plus écologiques et modernes pour le football, la mise en rénovation du foyer Longchamp. Nous souhaitons aussi cette année acheter un podium qui sert aux fêtes d'école et de quartier aux normes et plus rapide à monter pour le personnel, l'actuel a plus de 30 ans. Mais aussi numériser les écoles, les classes de CM2 notamment, et terminer la réfection de la toiture de l'église. Un total de 2 900 000 euros est envisagé en investissement pour l'année 2016. Il faut rajouter à cela les dépenses d'emprunt en capital, soit 1 103 000 euros. Donc au total, les dépenses d'investissement devraient être au maximum de 4 112 139 euros pour l'exercice 2016. Donc au niveau des recettes, elles dépendent de l'autofinancement et de multiples paramètres. Cette année, nous allons percevoir des recettes de vente immobilière, dont les terrains Gutenberg, Franklin, Boussemar, pour un montant de 782 000 euros, plus diverses subventions. Je souligne la subvention de la CAF pour la crèche à hauteur de 630 000 euros. Nous avons aussi la subvention parlementaire de M. Vercamer à hauteur de 12 000 euros et diverses subventions que nous pourrions avoir. Nous donnerait un besoin d'emprunt qui devrait atteindre au maximum 1 339 000 euros. En 2015, le prévisionnel était de 1 885 000 euros. Pour la rétrospective, nous l'analyserons sans doute un peu plus au compte administratif 2015. Je tiens juste à évoquer l'autofinancement de notre commune. L'autofinancement correspond au crédit de fonctionnement dégagé pour financer l'investissement. Cet autofinancement se réduit du fait de l'effet ciseau avec une baisse des recettes et des dépenses structurelles importantes qui ne baissent pas de la même manière. Dans le ROB, il y a une obligation de faire un état sur la dette, ce que je vais faire tout de suite. Je le fais à chaque fois, mais je vais le refaire. Je tiens ici à répéter que nous n'avons pas d'emprunt toxique à Lys. Je tiens à remercier ici les adjoints aux finances et les maires précédents pour le choix des emprunts. Ces choix d'emprunt ne sont pas portés sur des emprunts toxiques. Et je remercie aussi le service finance comptabilité pour les conseils qu'ils ont apportés aux élus pour ce choix des emprunts, parce que ça aurait pu donner une situation très très compliquée pour la commune. La dette lissoise au 1er janvier 2016 équivaut à 9 330 770 euros, ce qui correspond à 698 euros par lissois. Pour mémoire, au 1er janvier 2014, elle était de 769 euros, soit une baisse de 9% de la dette par lissois. Pour le plan pluriannuel d'investissement, pour le mandat, donc, comme je l'ai dit, nous prévoyons toujours la reconstruction de l'économat et de l'école maternelle Paul Bert. Cependant, afin que ça ne pèse pas trop sur les finances, nous avons lissé ce programme et nous l'avons décalé un tout petit peu afin de pouvoir financer correctement ces deux équipements. Donc j'en ai terminé avec la présentation synthétique. Je pense qu'il va y avoir des questions. Donc je vous laisse la parole et je répondrai à vos questions.